Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une, cet appel de la première ministre aux enseignants grévistes à reprendre les cours, du moins dans les provinces où certains syndicats ont durci leur mouvement de grève. Judith Suminwa était devant la presse jeudi à Kinshasa à l'occasion des 100 jours de son gouvernement. La chef du gouvernement congolais est l'invitée de ce journal. Plus de 920 victimes de violations et atteintes aux droits de l'homme documentées au mois d'août 2024 à travers la RDC, soit une réduction de 17% comparée à juillet 2024. Ceci ressort du dernier rapport du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Et puis, c'est aujourd'hui que sera inhumée la légende congolaise de basketball mondial, Mutombo Dikembe, aux États-Unis d'Amérique. Décédé le 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans, des cérémonies sont organisées notamment à Kinshasa pour rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait Mon Mutombo. Madame, Messieurs, bonjour. La Première ministre appelle les enseignants à faire preuve de patriotisme en reprenant les cours, allusion faite aux provinces où certains syndicats ont durci leur mouvement de grève. Judith Suminwa l'a dit jeudi au cours d'un entretien avec la presse dans le cadre des 100 jours de son gouvernement, totalisé le 19 septembre depuis son investiture par l'Assemblée nationale en juin dernier. Devant la presse quinoise, la Première ministre a dressé le bilan de son gouvernement et a passé en revue les questions touchant à tous les secteurs de la RDC, notamment la sécurité avec la situation des personnes déplacées, l'éducation avec la grève des enseignants, ainsi que l'économie et la politique. On écoute la Première ministre Judith Suminwa au micro de Alain Rungmushinji.
Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris, certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants.
Du moins une bonne partie.
Mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche. Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver. Nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance. Avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre les mains. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école.
Vous suivrez en long et en large la Première ministre Judith Suminwa, elle est l'invitée de ce journal. Entre-temps, dans la province du Maniema, nous apprenons que plus de 80% d'écoles ne disposent pas des latrines conformes aux normes hygiéniques. Révélation faite après une enquête menée par plusieurs acteurs l'année dernière. Pour celles qui en disposent, la plupart sont bouchées, exposant ainsi les élèves et les enseignants à des maladies. Néanmoins, le collectif des femmes secouristes du Maniema exécute le projet d'hygiène et d'assainissement des latrines scolaires dans les deux provinces éducationnelles de Maniema 1 et 2 en collaboration avec les autorités provinciales. Florence Kizalunga, reportage.
José Kimbalanga, coordonnatrice nationale de cette structure, fait savoir que son équipe dispose de plus de 100 femmes formées pour cette activité.
Il a été remarqué que dans 100% des écoles visitées, presque 80% de ces écoles disposent de latrines qui ne remplissent pas les conditions d'hygiène et assainissement convenables. Ces latrines ne sont pas entretenues, ni nettoyées, ni désinfectées. Elles se retrouvent à un état de délabrement total qui expose les usages à des infections urinaires, surtout pour les élèves filles et les enseignantes.
Ravi, le gouverneur accorde un moratoire aux écoles qui n'ont pas de latrines propres.
Un mot d'encouragement envers ces mamans qui ont pris cette initiative d'assainir les écoles. Pour les écoles qui n'ont pas de latrines, on va leur accorder un moratoire, peut-être de 2 mois ou de 3 mois pour se conformer. Et après ce moratoire, nous serons obligés de sanctionner les responsables de ces écoles.
Pour que ce projet réussisse, 1000 francs sera retiré dans les frais scolaires de chaque élève. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nord Kivu, les cadres et agents du secteur de la santé dans les villes de Butembo et Beni, ainsi que dans les territoires de Beni et Lubero, dénoncent le non-alignement à la prime de risque et la non-mécanisation des nombreux professionnels de santé de la région. Dans une déclaration publiée jeudi, la coordination de l'intersyndicale de la santé de Butembo, Beni et Lubero appelle le gouvernement à améliorer leurs conditions de travail dans les plus brefs délais. Ce syndicat menace de déclencher une grève en cas de non-prise en compte de leurs revendications. Monge Ronzoli, coordonnateur de cette structure, explique la situation. Il est joint par Martial Papimukeba.
Aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit la prime des risques, il reçoit 160 000 francs et que vous divisez par 2900 au taux du jour, vous comprenez s'il reçoit combien de dollars par mois à terme de prime des risques. Mais aussi, au même moment, il est en train de subir la gratuité de la maternité. Vous comprendrez que c'est la maternité qui fait fonctionner les établissements. Donc, il reste aussi à savoir comment sera aussi cette partie de la gratuité de la maternité qui pouvait tant soit peu encore soulager ces professionnels de la santé. Mais il y a aussi un grand nombre des agents qui ne sont pas encore reconnus par l'État, moins encore pour la prime des risques, où dans la partie Grand Nord, nous, selon les dernières données, nous sommes autour de 35% de professionnels qui sont alignés pour la prime des risques. Pour les salaires, là, n'en parlons plus. Nous sommes aux environs de 7 à 8% ceux qui reçoivent les salaires. Donc comprenez avec moi que nous pourrons entrer à grève pour réclamer nos droits, parce que même la Constitution les garantit.
Dans l'actualité aussi, les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu décident de s'impliquer dans la gestion du trafic lacustre sur le lac Kivu pour la sécurité de leur population. C'est ce qu'a révélé jeudi à Goma le gouverneur du Sud Kivu dans son discours lors des obsèques des victimes du naufrage du 3 octobre dernier. Jean-Jacques Pouroussi a annoncé quelques actions qui seront menées conjointement entre les deux provinces afin de limiter les risques pour les populations et faire face aux défis liés au voyage entre ces deux provinces. Le compte-rendu de Sifa Maguru.
Entre autres problématiques évoquées par le gouverneur Pouroussi, on peut noter la réhabilitation de la route nationale numéro 2, Bukavu-Minova-Goma, dont les travaux et financements ont été annoncés, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Le gouverneur Pouroussi a également parlé de la formation rapide de plongeurs et techniciens locaux dans le cadre de la gestion du lac. Il annonce également une dotation de 5000 gilets de sauvetage en faveur des armateurs en vue de sécuriser les voyageurs.
La province du Sud Kivu décide de doter les communautés et armateurs de 5000 gilets de sauvetage et nous allons partager les modalités de les distribuer. La route Kavumu, Kale, Nyamukubi, Minova, Sake, Goma, la Banque africaine de développement BAD avait déjà donné une grande partie de financement depuis très longtemps. J'annonce ici que nous avons trouvé un arrangement avec les FARDC et les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu au sujet de l'équipement de génie civil, dont de la MONUSCO, pour lancer ces travaux, car c'est la route nationale.
D'après Jean-Jacques Pouroussi, les deux gouvernements provinciaux ont mis sur pied un cadre de concertation sur la gestion du lac. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir documenté 331 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC et en fait 923 victimes au cours du mois d'août 2024. Ce chiffre correspond à une réduction de 17% du nombre des violations et d'atteintes documentées comparé au mois de juillet dernier. Selon son communiqué de presse publié vendredi à cet effet, le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme indique que cette réduction reflète une diminution du nombre des violations et atteintes documentées dans les provinces en conflit liées à un sous-rapportage des incidents impactant les droits de l'homme dans ces zones. D'autres détails dans ce reportage de Grace Hamzati rendu par Jacques-Yves Moulima.
Dans les provinces en conflit, le BCNIDH a documenté 287 violations et atteintes aux droits de l'homme, ce qui représente une diminution de 18% par rapport au mois précédent où 340 cas avaient été enregistrés. Le bureau constate également une diminution du nombre de victimes de 23%. Ainsi, pour ce mois d'août, le BCNIDH a enregistré 743 victimes. Par ailleurs, dans les provinces non affectées par le conflit, le BCNIDH a documenté 43 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une diminution de 28%. Ce fait reflète la baisse au cours de la période en revue des cas de violation du droit à la liberté de la personne dans la province du Haut-Katanga, où il a été enregistré 16 cas de moins. En outre, le BCNIDH a enregistré pour le mois en revue 12 incidents de violences sexuelles liés au conflit avec 20 victimes, toutes des femmes. L'enlèvement a été la violation la plus fréquente, suivie du recrutement et utilisation, du meurtre et mutilation, des violences sexuelles et des attaques contre les écoles et hôpitaux. Toutefois, le BCNIDH dit avoir poursuivi l'accompagnement au gouvernement et à la société civile congolaise dans la promotion et la protection des droits de l'homme.
Revenons à présent sur cette affaire de la disparition d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante congolaise décédée au Canada, avec ce témoignage de Merveille Emongo, journaliste d'origine congolaise habitant Montréal. Cette dernière rapporte que les étudiants sont partagés entre tristesse et colère parce que n'ayant pas encore des réponses sur ce qui est arrivé réellement à Alexandra avant la découverte de son corps sans vie. Ce drame, selon la journaliste Merveille Emongo, met en lumière la précarité et le danger auquel sont confrontés les immigrés. Quel est alors le sentiment qui règne au sein de la population, la communauté congolaise? Merveille Emongo l'exprime ici. Elle est jointe par Blaise Makasinandes.
J'étais sur les lieux du drame et je vis l'émotion de tous ces étudiants qui s'étaient rassemblés en attendant la nouvelle de leur sœur, collègue Alexandra Martine. La découverte tragique du corps d'Alexandra a profondément touché notre communauté congolaise. Cet événement va au-delà d'une simple tragédie personnelle. Il soulève des questions très très importantes sur la sécurité des immigrés et la solidarité au sein de notre diaspora. Je peux bien vous assurer qu'après la mort d'Alexandra Martine, la communauté congolaise est très très touchée. Que dire des étudiants qui jusque-là expriment encore une grande tristesse et beaucoup de colère par rapport à cette situation. Beaucoup se posent des questions sans réponse jusqu'à présent. De quelle façon Alexandra Martine est décédée. Il ressort que ce drame met en lumière la précarité et les dangers auxquels sont confrontés les immigrés. Tout le monde maintenant a peur de sortir. Tout le monde s'est dit, au camp où je sors, qu'est-ce qui peut m'arriver?
Je vous l'ai dit également dans le sommaire, décédé le 30 septembre dernier, Jean-Jacques Mutombo Dikembe sera mis en terre ce samedi 12 octobre en Géorgie, à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Ici à Kinshasa, les hommages fusent de partout. Une double veillée mortuaire a été organisée la nuit dernière, simultanément à Kinshasa, à savoir au gymnase du Stade des Martyrs et à l'hôpital Biambamari Mutombo, fondé par l'ancienne star de la NBA. Vanessa Kongolo y était, voici son reportage.
À l'hôpital Marie Biambo Mutombo, la tristesse est grande. Les effigies des Mutombo sont partout. Dans la cour de l'hôpital aménagée pour la veillée mortuaire, les agents, les notables et habitants de Massina défilent pour rendre hommage aux philanthropes qu'ils ont ou pas vu de son vivant.
De vie, je ne le connais pas. Mais pour moi, je vois les résultats, c'est un bon.
De son vivant, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé cet hôpital. Il disait toujours, je passe tout mon temps dans les avions pour vous chercher des matériels, il faudra protéger, donc il aimait beaucoup son hôpital.
De Massina, nous nous rendons au gymnase jumelé du Stade de Martyrs. Ici, les sportifs, les autorités et membres de la famille sont réunis pour rendre hommage à la légende de la NBA. Une cérémonie d'hommage organisée par le ministère congolais des sports. La chorale symphonique kimbanguiste et Moïse Mbillé ont animé cette soirée. Ceux qui sont passés entre ses mains promettent de pérenniser sa mémoire.
Si aujourd'hui je suis basketteur, c'est grâce au grand frère, parce que je suis passé par les mains de Dikembe Mutombo. Comme vous m'appelez président, c'est déjà, je suis en train de continuer ce que j'ai reçu venant de lui.
Pour rappel, Mutombo Dikembe est décédé à l'âge de 58 ans d'une tumeur au cerveau.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria. La population vit dans la crainte dans le nord-est du pays, en plus de la menace sécuritaire qui plane à cause de la présence des groupes djihadistes. Les habitants doivent désormais faire face au risque d'insécurité alimentaire. Pour des raisons de sécurité, le Programme alimentaire mondial PAM, principale organisation présente dans le nord-est du pays, ne peut pas accéder à toutes les zones. Conséquence, des millions de personnes sont menacées de famine. Le Programme alimentaire mondial déclare avoir besoin de 74 millions de dollars pour mener à bien ses opérations dans cette partie du Nigeria jusqu'à la fin de l'année.
L'invité.
Le gouvernement Soumino a totalisé 100 jours le 19 septembre dernier depuis son investiture par l'Assemblée nationale en juin. Devant la presse quinoise hier, la première ministre Judith Soumino a dressé le bilan de son gouvernement et a passé en revue les questions touchant à tous les secteurs de la RDC, notamment la sécurité avec la situation des personnes déplacées, l'éducation avec la grève des enseignants ainsi que l'économie et la politique. Judith Soumino s'entretient dans cette portion avec Alain Rongmouchine.
Madame, la grogne sociale est très forte et ne fait que s'amplifier. Pour ne prendre que les cas des enseignants, des médecins, des magistrats et beaucoup d'autres secteurs, il y avait des négociations entre gouvernement et banque syndicale avant la rentrée et votre gouvernement s'est félicité du fait qu'il y avait des avancées, mais une bonne partie des enseignants ne donnent pas cours et beaucoup parlent déjà de la menace d'une prochaine année blanche. En les regardant dans les yeux en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites ?
Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris, certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants.
Du moins une bonne partie.
Une bonne partie. Vous les avez identifiés ? Vous avez fait cette analyse-là ?
En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux.
Ils sont de plus en plus nombreux, mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche ? Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver. Nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance. Avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre les mains.
Malheureusement, madame, quand on parle avec les syndicats tels que les SIECO, les SINECAT et tant d'autres, ils accusent le gouvernement de ne pas négocier avec les bonnes personnes. Le gouvernement crée ses propres syndicats, les amène autour d'une table et signe des accords et tout. Eux, ils estiment que vous ne parlez pas avec les bonnes personnes et votre gouvernement n'échappe pas à cette situation.
Bon, si c'est le cas, je pense que moi, ma porte est ouverte. Hein. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent. Si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important, plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats. Parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'intersyndicale, pour s'assurer qu'on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement, et comme ça, au moins, on pourra avoir les personnes qu'il faut avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école.
Madame, à l'Est, les déplacés, c'est compte en termes de millions, vous le savez. Que fait votre gouvernement concrètement pour soutenir ces personnes de manière efficace et régulièrement surtout ?
Vous savez, quand je suis entrée en fonction, mon premier voyage a été à l'Est. J'ai été au sud, à Bukavu et à Goma. Je pense qu'il était important pour moi de montrer à cette population meurtrie, et j'ai été jusqu'au camp de déplacés de Mungangu. C'était important d'aller les voir et de leur montrer que nous sommes là avec eux. C'est vrai, dans un contexte où vous êtes loin de chez vous, vous n'avez plus accès à vos cultures, parce qu'en règle générale, ce sont des populations qui sont des cultivateurs, vous ne pouvez plus cultiver, vous êtes dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau, où il n'y a pratiquement pas d'électricité. Et donc, c'est une situation assez difficile. Et en plus, vous vous retrouvez dans une situation où on commence même à parler d'agression sur les femmes, etc. Donc, la première chose était de voir, nous déjà gouvernement, avant même de parler des partenaires, il y a un appui que nous essayons d'apporter régulièrement au niveau de ces populations de l'Est. J'ai la ministre des Affaires sociales et humanitaires qui y va d'ailleurs régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est à l'Est, suite au naufrage que nous avons eu. Et vraiment, il faut avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes décédées et vraiment toute ma compassion à leur famille. Et donc, c'est une situation qui nous interpelle et nous essayons de pouvoir trouver des solutions en termes d'appui humanitaire. Mais la meilleure des choses pour nous, c'est d'en finir avec cette guerre.
Voilà, vous allez suivre l'intégralité de cet entretien sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi, à savoir le site www.radiokapi.net, YouTube, le compte X et Facebook. Notez aussi que cet entretien sera diffusé sur votre radio ce dimanche 13 octobre à partir de 9h. Ainsi s'achève complètement ce journal supervisé par Alain Rungmushinj et Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester branchés sur la fréquence de la paix.